Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent. Que faire quand notre avenir est incertain? Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces? Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la parole, source de nouveauté. Amen. Nous avons deux lectures ce matin. La première lecture, on va partager ça entre moi et Yves. C'est les deux dans Ruth. Moi, je lirai Ruth 1, les versets 8 à 19. Naomi dit à ses deux belles filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mets au monde des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « C'est bien Naomi ?» Amen.
Nous poursuivons la lecture au chapitre 3, les versets 10 à 16. Boaz lui déclara, « Que le Seigneur te bénisse, Ruth. Tu viens de donner à la famille de ta belle-mère une preuve de fidélité encore plus grande que précédemment. En effet, tu n'as pas cherché l'amour des jeunes gens, riches ou pauvres. Eh bien, n'aie aucun souci. Je ferai pour toi ce que tu me demandes, car toute la population sait que tu es une femme de valeur. Il est exact que j'ai à ton égard la responsabilité d'un proche parent. Mais il existe un homme dont le degré de parenté avec ta famille est plus étroit. Passe ici la fin de la nuit. Demain matin, nous verrons s'il veut exercer sa responsabilité à ton égard. Si oui, qu'il le fasse. S'il ne le désire pas, je te promets par le Seigneur vivant que j'exercerai ma responsabilité à ton égard. En attendant, reste couché jusqu'au matin. » Ruth resta donc au pied de Boaz. Mais elle se leva à l'aube, avant que la lumière du jour permette de la reconnaître. En effet, Boaz ne voulait pas qu'on sache qu'elle était venue à cet endroit. Il lui dit : « Enlève la cape que tu portes et tiens-la bien. » Elle tendit sa cape et il y versa 6 mesures d'orge qui l'aida à charger. Ensuite, il retourna au bourg. Ruth rejoignit sa belle-mère. Celle-ci lui demanda : « Comment cela s'est-il passé, ma fille ?» Ruth lui raconta alors tout ce que Boaz avait fait pour elle. Amen. La deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 25 à 30. Même si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu, qui voit dans le cœur, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander. Car l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il les a aussi donné part à sa gloire. Amen.
Au début de cet été difficile en matière de météo, je me suis enfuie à l'altitude pour échapper quelques jours à la chaleur de la plaine. Si bien que le 21 juin, j'ai écouté le culte à la radio. C'était le dimanche des réfugiés. Ce culte était retransmis depuis une paroisse lausannoise. La pasteure a illustré sa prédication de la présence d'un couple réfugié, parents de 2 enfants. Arrivés il y a quelques années, ils ont témoigné et raconté comment ils avaient décidé de quitter leur patrie. De toute urgence, ils ont dû fuir le pays qui les maltraitait. Fuir, mais pour aller où ? Peu leur importait. L'essentiel, c'était de partir. Ce faisant, la famille a quitté son pays, sa langue, le cadre qu'elle connaissait, sa culture, sa famille élargie, sans savoir de quoi serait fait l'avenir. Elle plongeait dans l'inconnu avec la conviction qu'elle n'avait pas d'alternative. Après un chemin en zigzag, Elle est arrivée en Suisse où elle a recommencé sa vie. Dans un français encore un peu hésitant, les parents ont expliqué qu'ils avaient pu, avec les enfants, avec leurs enfants, retrouver espoir et renaître à une vie différente mais accomplie. Des sourires dans la voix, ils disaient le chemin parcouru. Et là, leurs mots simples ont fait résonner en moi une zone que je reconnaissais. Ces mots touchaient le souvenir d'une expérience personnelle du même ordre. Voilà comment j'ai trouvé dans leurs paroles une analogie possible entre leur situation et celle de tout un chacun à certains moments de notre vie, une image que je vais essayer d'expliquer. Au cours de la réflexion, il m'a paru nécessaire de retourner à quelques termes et d'en préciser le sens. Un réfugié, c'est quelqu'un qui est forcé de fuir, de partir, de quitter, s'il veut survivre. Sa situation lui dit qu'il n'a pas d'autre choix. Il prend cette décision dans l'urgence. C'est ce qui arrive ces jours à ces habitants du Var, de la Gironde, de la région madrilène et d'ailleurs encore, qui doivent fuir les incendies au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de chez eux. Tandis qu'un migrant, c'est quelqu'un qui délibérément choisit de partir pour des raisons qui lui sont propres, de formation, d'apprentissage des langues, par envie de tenter sa chance ailleurs dans un autre pays. C'est une décision prise après mûre réflexion. Dans notre région, il nous faut aussi évoquer les saisonniers, les travailleurs invités, selon une appellation non dénuée d'humour un peu noir, pour nommer les personnes qui quittent leur pays pour travailler dans un pays proche, dans lequel elles ont la certitude de toucher un salaire qui leur permettra de faire vivre leur famille. Le travail d'abord, les conditions de vie ensuite, puisqu'elles ne sont pas leurs préoccupations premières. Mentionnons aussi les frontaliers attirés par les offres d'emploi et de meilleures conditions financières. Enfin, les expatriés qui sont envoyés par leur entreprise, qui acceptent d'aller travailler à l'étranger en sachant que leur situation sera excellente, peut-être même meilleure que celle qu'ils connaissaient chez eux. Dans ces différents cas, le changement se fait soit par le rejet, la mise à l'écart de son propre pays, soit par attraction vers un autre pays, pour des raisons multiples, liées à la politique, aux questions religieuses ou aux conditions économiques. Si nous reprenons l'histoire de Ruth, dont nous avons entendu deux passages, il apparaît qu'elle souhaite accompagner Naomi, sa belle-mère, qui veut rentrer à Bethléem, son pays et celui de son mari décédé. Ruth ne cherche donc pas à quitter son pays, son propre pays, le pays de Moab. Par contre, elle décide d'accompagner sa belle-mère Naomi par amour filial. Elle ne rejette pas son pays, mais elle donne la priorité à celui de ses beaux-parents. Ce faisant, Ruth pourrait être qualifiée de migrante. Elle sait qu'elle sera accueillie à Bethléem, qu'elle sera entourée. Elle ne part pas vers l'inconnu total. De notre côté, en quoi pouvons-nous nous sentir touchés par ces situations dans leur sens propre? Réfugiés, peu d'entre nous en ont fait l'expérience tragique. Migrants, certains d'entre nous l'ont été pour un temps. Saisonniers, travailleurs invités, nous en côtoyons tous les jours dans la région, mais nous n'avons pas de connaissance intérieure de leur situation. Expatriés, en tant que paroisse, nous en accueillons un bon nombre. Nous vivons à leur côté, avec eux, au milieu d'eux. Et quelques-uns parmi nous ont fait partie des expatriés à certains moments de leur vie. Pour nous, qui n'avons aucune connaissance livresque de la situation d'un réfugié, les temps de vacances, lorsque nous sommes encore en activité professionnelle, le temps de la retraite plus tard, nous offre entre autres la possibilité de nous laisser arrêter, de permettre à notre esprit de se laisser accrocher par certains termes. Ici, dans le sujet qui nous intéresse, par ces termes dans leur sens figuré. Tentons d'explorer ces différentes situations, essayons de regarder l'image qu'elles évoquent. En tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte, nous faisons des projets de formation, de vie professionnelle, de vie privée. Certains font des plans très précis, étalés dans le temps. Je vais suivre telle école, tel programme d'études, me présenter à tel diplôme, je vais terminer ma formation en telle année, puis poser ma candidature dans telle institution. Il peut en être de même pour la vie personnelle. D'autres font des projets de formation, mais comprennent aussi qu'il peut être une bonne chose de faire de la place aux surprises que la vie propose. Que nous appartenions au groupe de ceux qui ont prévu un schéma strict ou, au contraire, au groupe de ceux qui acceptent de se laisser surprendre, pouvons-nous toujours suivre ces projets, arriver à les réaliser sans devoir contourner des chemins obstrués qui nous incitent, qui nous forcent, qui nous acculent à adapter, à rectifier une direction, à compléter une formation. En d'autres termes, suffit-il de se faire un plan de vie, un plan de carrière, pour que les étapes s'enchaînent tranquillement les unes aux autres? Non. Une vie sans surprise est rare. Dans ce sens figuré, je me demande si toutes et tous nous n'aurions pas pu nous considérer comme des réfugiés à un moment ou l'autre de notre vie. Quand ? Au moment où surgit un événement inattendu, où une rencontre nous marque particulièrement, où une proposition de travail nous est faite. À ce moment précis, dans les instants qui suivent, ne nous sentons-nous pas à la fois en nous et hors de nous, comme si nous étions réfugiés à nous-mêmes, de nous-mêmes, dans l'obligation de nous mettre en retrait de notre état présent pour en rechercher un autre dans l'urgence, à la quête d'un nouvel équilibre, d'une nouvelle direction, d'un nouveau sol à fouler. Ne nous sentons-nous pas coupés en deux, à milieu de la situation espérée, étrangers au futur imaginé? Voilà comment peut surgir cette image du réfugié dans les premiers instants qui suivent l'annonce qui va tout changer, qui va bousculer nos projets à court, à moyen ou à long terme. Sur le moment, nous prenons une décision rapide. Nous parons au plus pressé. Nous sauvons notre peau. Dans ce geste d'urgence, même si nous savons que nous ne sommes pas seuls, que Dieu nous garde, nous en avons l'intime conviction, sommes-nous toujours conscients de recevoir l'aide dont nous avons besoin? Sur le moment, certes, mais plus tard. Même si ce terme de réfugié n'est pour nous qu'une image, plus tard, nous remarquons alors que nous n'étions pas seuls, que tout s'est passé comme si le Christ s'était faufilé dans les blancs, dans les interstices de nos vies, comme si le Christ nous avait aidés en catimini, nous avait portés discrètement. Nous avons reçu la force, l'énergie pour dépasser cette situation de réfugiés à nous-mêmes, pour retrouver notre unité, pour aller plus loin, pour découvrir en nous des capacités que nous ne soupçonnions même pas. Quand arrive l'heure d'évoquer ces temps de bascule, de les commenter, de les accepter, de les relire, c'est là que nous pouvons retrouver et goûter des textes tels ce passage de l'Épître aux Romains, Au chapitre 8, verset 28, nous lisons « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son dessein, selon son dessein. » Une fois ces temps de crise derrière nous, notre vie réorganisée, nous avons tout le loisir de regarder, d'apprécier et d'exprimer notre reconnaissance. Oui, nous avons dû traverser des moments difficiles. Oui, nous avons dû adapter notre trajectoire. Mais nous mesurons aussi combien sa modification nous a offert de possibilités nouvelles d'ouverture au monde. En reprenant nos lectures de ce matin, nous retrouvons ce signe de reconnaissance discret dans les mots de Ruth. Alors que les deux femmes sont arrivées à Bethléem, Ruth part glaner dans les champs de Boaz, un parent de son beau-père Élimélec. Elle demande l'autorisation au serviteur de Boaz. Lui, rapidement touché par l'attitude de Ruth à l'égard de sa belle-mère, décide de la protéger. Le texte nous dit qu'en fin de journée, Ruth revint auprès de sa belle-mère. « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Cet homme qui protège Ruth, c'est donc Boaz, qu'elle épousera plus tard. L'histoire de Ruth nous donne à comprendre qu'après cet événement inattendu, cette intrusion dans la vie de Boaz, elle entamera une vie nouvelle. Elle lui donnera un enfant. Elle aura été fidèle à sa décision. Ces situations dans lesquelles la terre se dérobe sous nos pieds, tôt ou tard, nous conduisent à un nouvel équilibre, nous rendent créatifs, nous donnent à voir de nouveaux horizons par des portes entrebâillées qui ne demandent qu'à être largement ouvertes, des portes qui nous permettent de nouvelles découvertes auxquelles nous n'étions pas préparés. En quelques mots, sur le moment, réagissons en faisant confiance à notre instinct de survie sous l'œil de celui qui nous garde. Plus tard, vivons notre vie recréée, notre unité nouvelle à l'intérieur de nous-mêmes. Dans le temps de la reconnaissance, asseyons-nous, mesurons le chemin parcouru et rendons grâce. Amen.